Bonjour bien-aimés. Nous remercions le Seigneur qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, de le célébrer, de lui dire toute notre reconnaissance et aussi d'être dans sa présence pour exprimer parfois nos douleurs, nos difficultés, nos épreuves. Il est le Dieu qui nous accueille avec ce que nous sommes, n'est-ce pas? Et nous le bénissons pour cette grâce. Pour aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous sur le thème que nous avions commencé il y a quelques semaines et que les frères qui ont apporté le message ces derniers dimanches ont aussi abordé. Et nous avions commencé avec ce texte de Romains chapitre 12, le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Et je vous avais aussi invité à réfléchir sur celui de Marc, chapitre 14. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, n'est-ce pas? Et j'avais à cœur de partager ces textes avec vous parce que le défi de la foi chrétienne est un défi qui est de plus en plus actuel. Dans notre monde qu'on dit sécularisé, postmoderne, la foi chrétienne se voit de plus en plus en recul, en tout cas en Occident, alors que dans le reste du monde, cette foi continue de progresser, de prospérer, et nous avons besoin en tant que chrétiens d'être ce que nous sommes. Des chrétiens, et nous avons besoin de nous rappeler des textes que le Seigneur nous a laissés, des avertissements, mais aussi des encouragements à redoubler d'efforts pour porter très haut le témoignage de l'Évangile. Et j'aimerais commencer, avant de revenir sur ce texte de Romains, avec un texte que l'apôtre Paul a laissé à ses collaborateurs, notamment à Timothée. Et la deuxième épître de Timothée est présentée comme quelque part un testament et que l'apôtre Paul laisse à son jeune collaborateur, alors qu'il sent que ses jours sont en train de partir. Et ce texte, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, je vais juste vérifier quelque chose. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Le texte nous dit au verset 1, sache bien, et j'ai une autre version, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Dans la version que nous connaissons le plus, et je la relis dans cette version aussi, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu à la fin de son ministère, en tout cas, on sent que Il veut laisser des ordonnances assez fortes à Timothée, mais au travers de Timothée, l'Esprit de Dieu parle à l'Église, n'est-ce pas? Pour nous avertir, c'est quoi les derniers temps? C'est quoi? Qu'est-ce que la Bible appelle les derniers jours? Parfois, on a le sentiment que c'est loin, n'est-ce pas? Qu'il s'agit de la fin des temps. Dans la pensée biblique, les derniers jours ont commencé depuis que Jésus-Christ est rentré dans le monde. Jésus-Christ est le curseur de ce que la Bible appelle théologiquement les jours derniers. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. L'Épître aux Hébreux dit que dans le temps ancien, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans ces temps les derniers, il a parlé par son Fils et par l'Esprit. Ces temps ont donc commencé. Ont commencé avec l'avènement du Fils de Dieu. Et ces traits qui sont indiqués ici ne sont pas des traits nouveaux. On le voit dans l'humanité depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Mais on a le sentiment que le Seigneur avertit que ces traits de l'humanité seront aggravés, seront exponentiellement visibles dans notre humanité. Et je dois constater effectivement que même parfois, les choses qui dans les temps passés étaient des choses un peu taboues, on va dire, des questions de la sexualité par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. On a viré carrément dans l'autre sens. Avant encore, il y avait des choses qu'on cachait. Aujourd'hui, on ne cache plus rien. Même des choses qui devaient être cachées aux enfants. Aujourd'hui, tout est à nu. On a fait le pari que tout le monde peut tout porter, tout supporter, n'est-ce pas? Et que même, vu qu'on a voté cette loi, n'est-ce pas, que vous connaissez, et que nous avons en chair, nous avons maintenant les consignes de faire attention lorsque nous parlons de ces aspects de la sexualité de notre société, parce que sinon nous pouvons être passibles de procès. Et non plus, il nous faut prendre des précautions pour parler de ces choses-là aussi. Mais la Bible les appelle des péchés, n'est-ce pas? À l'époque, même aujourd'hui, les affiches publicitaires nous montrent régulièrement des femmes nues, n'est-ce pas? Dans nos arrêts bus, dans nos arrêts de métro. Et vu que la loi est passée, aujourd'hui on nous montre des publicités avec deux hommes qui s'embrassent, deux femmes qui s'embrassent. Et c'est là dans nos arrêts bus, dans nos gares de métro. Comme pour dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça. Et ne sous-estimez pas la force de la publicité. La publicité impacte les consciences, surtout des plus petits, puisqu'ils grandissent dans cet environnement. Je note qu'il est plus facile de faire des publicités, des choses dites exotériques, n'est-ce pas? Combien de bouddhas je vois partout aujourd'hui? Dans tous les centres commerciaux, vous avez des rayons culture, il y a des bouddhas de toutes les tailles. Je vois rarement une croix. Mais je vois des bouddhas qui sont passés comme des objets culturels. Mais le Bouddha n'est pas un objet culturel, c'est un objet cultuel. Car Bouddha est une réincarnation d'un dieu. Parce que dans ces mentalités de la religion en Orient, ils ont plusieurs dieux, ils en ont des centaines de milliers. Et Bouddha est l'une des réincarnations de ces dieux-là. Donc Bouddha n'est pas un objet culturel, il est cultuel, il est dieu. Et pourtant, dans les réunions, aujourd'hui, de nos supermarchés, il est tellement facile de voir des bouddhas de toutes les tailles. Et je ne vois pas de croix qui sont en vente dans ces supermarchés. Et je me dis, il y a une injustice. Parce que la croix est aussi un objet finalement culturel. Pourquoi n'est-il pas sur les rayons dans nos centres commerciaux? Il est plus facile de parler de mysticisme, d'ésotérisme, de religion orientale, on parle de la zénitude, on parle de... on parle de tout sauf de cette foi qui est chrétienne et celle-là on dit, oh non, 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 ça c'est dans la sphère privée. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Je constate qu'il y a deux types de sociétés dans ma petite analyse. Il y a celle où on parle beaucoup de Dieu, n'est-ce pas? Comme aux États-Unis, tout le monde dit. Que Dieu bénisse les États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est dans le langage commun. Et il semble que tous les présidents américains prêtent ses mains sur la Bible. Et pourtant. Oh my God, disent-ils. Donc finalement, Dieu est tellement présent qu'il n'est nulle part. Et c'est un peu aussi le cas dans certaines sociétés, comme la société haïtienne que j'ai visitée il n'y a pas longtemps, comme dans quelques sociétés aussi africaines, où vous voyez plein de publicités qui parlent de Dieu partout, 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 partout. Où il y a des bus qui ont sur leur facette Jésus. Et puis finalement, tu regardes l'impact que ça a sur la société, il y a très peu d'impact. Les gens disent, chrétien, mais tu ne vois pas profondément le changement que cela apporte. Et puis tu as l'autre type de société, comme celle de la France, où justement on ne veut pas que Dieu soit quelque part. Donc tous les discours publics font en sorte de ne pas citer Dieu, où Dieu est plus qu'une personne non grata, hein, qu'on ne souhaite pas évoquer du tout. Et même ceux qui sont chrétiens et qui sont dans la sphère politique jonglent avec leur expression pour, dès qu'on dit, mais vous êtes un croyant, il dit, oui, 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 mais je ne suis pas là pour ma foi. Comment est-ce qu'on peut dissocier sa foi de ce qu'on est? Je suis ce que je suis parce que ma foi me fait être ce que je suis aussi. Bref, sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Et il cite un certain nombre de choses qui sont du reste déjà dans la société depuis bien longtemps. Mais l'apôtre poussé par l'Esprit de Dieu nous met un focus sur ces choses-là. Parce que ces choses-là seront de plus en plus, année après année, siècle après siècle. Et les deux guerres mondiales nous l'ont prouvé, n'est-ce pas? Et nous ne savons pas ce que notre humanité nous réserve encore. Mais toutes ces choses sont à la base c'est ça. Il commence par dire, car dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Être égoïste, c'est être ami de soi-même. Un égoïste, c'est quelqu'un qui se préfère d'abord avant tout le monde. Qui se préfère tellement qu'il a du mal à aimer les autres. Qu'il a du mal à faire du bien aux autres d'abord. Les gens seront amis de l'argent. L'argent est un outil, l'argent est un moyen, l'argent est utile. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que l'argent est un problème. Ce que la Bible dit, il dit de plus en plus, les gens seront amis de l'argent. Vous savez, amis de l'argent, c'est l'avarice. C'est toujours avoir, toujours avoir, toujours avoir, toujours avoir. Mais si on continue d'avoir, il faut bien le prendre quelque part. Et si j'en prends trop quelque part, le problème c'est que les autres, ils n'ont presque rien. Il avare, il emmagasine, mais il dépense rarement. Donc du coup, il ne distribue pas non plus. Il dit de plus en plus, notre monde sera comme ça. Cette semaine, je regardais un documentaire qui retraçait un peu l'histoire de la Chine. Les grandes familles chinoises, comment la Chine s'est constituée. Et à chaque époque de cette grande Chine, on voit qu'il y a eu une famille qui a dirigé l'Empire, qui a fait des grandes réalisations, notamment la muraille de Chine. Et le commentateur, il est toujours émerveillé de toute cette grande réalisation, de ce progrès dans cette civilisation chinoise. Et puis en fond de son, il dit à chaque fois, mais ça a coûté la vie à des populations. À force de faire ces grands travaux-là, La population était pressée. Il y a eu des révoltes sociales parce que les gens ne pouvaient plus, parce que ces grands travaux ont été financés par des impôts qu'on prenait sur les plus pauvres. Parce que ces grands travaux ont été financés par la main-d'œuvre qu'on prenait dans les familles les plus pauvres. Et du coup, cette question de l'argent, de la réussite, de la grandeur de nos nations se font toujours un peu au détriment des plus pauvres. Mais c'est l'histoire de notre humanité sans Dieu. Ils seront fanfarons, présomptueux, vantards, orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui se lève au-dessus des autres avec mépris, n'est-ce pas? Ils seront blasphémateurs, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Maintenant, tu sais, enfin, Dieu n'existe pas, donc du coup, on peut dire ce qu'on veut sur lui, puisqu'il n'existe pas. Et si on entend tout ce qu'on entend sur Dieu, tu dis, bon, le Seigneur est capable de se défendre. Depuis la nuit des temps, il se défend. Ça nous fait mal au cœur, mais Dieu est celui qui se défend mieux que ce que nous pouvons faire. Mais aujourd'hui, chacun y va de sa parole sur Dieu. Ils seront rebelles envers leurs parents, sans égard pour leurs parents. Bien sûr, les temps ont changé, n'est-ce pas? On dit aujourd'hui, c'est le 20e siècle, les parents sont les amis des enfants. Et puis on voit ce que ça donne, malheureusement. Le respect, il n'est plus là. Et même évoquer le respect, c'est devenu un gros mot. Ils seront ingrats. L'ingratitude, c'est le contraire de la reconnaissance. Sacrilège, c'est-à-dire que tout ce qui est sacré, tout ce qui appartient à Dieu, ça ne dit plus rien à personne. Ils seront insensibles, sans affection. Et on voit bien que dans notre société, plus on parle d'amour, plus on parle de désamour. En même temps qu'on fait la promotion du mariage pour tout le monde, en même temps, malheureusement, les tribunaux sont remplis de gens qui veulent divorcer. C'est incroyable. En même temps, la loi fait en sorte qu'on divorce plus rapidement que dans le passé, parce que les gens sont pressés de divorcer. Mais c'est des vraies souffrances. Il ne s'agit pas juste de faire des constats que les gens divorcent. Les gens souffrent. C'est ça le divorce, c'est la souffrance. Les gens qui étaient censés s'aimer. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Et ça doit nous faire mal. Nous, on ne peut pas se réjouir que les statistiques de divorce augmentent. Non, parce que c'est des hommes et des femmes qui souffrent et c'est des enfants qui souffrent. On doit prier Dieu, Seigneur, Seigneur, étends ta main. Garde ces personnes qui sont déjà bien touchées par la souffrance. Garde-les, restaure-les, conduis-les. On n'est pas là pour juger. On est là pour voir la souffrance des gens. Et de dire, Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Ils seront implacables, impitoyables. Je n'ai pas de parti pris pour les différentes politiques économiques, mais il y en a plus que d'autres qui sont impitoyables, n'est-ce pas? Il y en a plus que d'autres qui sont impitoyables, n'est-ce pas? Quand c'est gagner pour gagner au détriment des autres, c'est impitoyable. On a l'impression parfois qu'on est dans la jungle. C'est la loi du plus fort, la loi du plus riche. Celui qui a, c'est lui qui a toujours. Et celui qui n'a pas, il crime, mais il n'y arrive pas. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de travailler à la sueur de son front. Bref. Ils seront médisants. La médisance dit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes sur l'autre. Et de plus en plus, les médias y vont. Les fake news. C'est devenu maintenant un mode de comportement de notre société. Les fausses nouvelles. C'est devenu un mode de conduite dans notre société aujourd'hui. Et c'est ça qui marche. On ne prend plus le temps de se renseigner plus profondément et on jette les gens en pâture. On les jette en pâture. Mais une fois que vous avez jeté quelqu'un en pâture, ben vous l'avez détruit. Après, vous avez beau faire des rectificatifs, vous avez beau faire... je ne sais pas moi, des erratum, mais la personne, elle est détruite. Ils seront sans maîtrise de soi. La violence. On a une société de violence incroyable. Violente faite aux femmes, violente faite aux enfants, violente faite aux maris, violente faite à ceci, violente faite à cela. C'est une société de violence. Et on dit que la violence dans nos sociétés, elle n'est pas que physique, elle est maintenant tellement dans la parole. On se dit tellement des choses dures, des choses violentes dans les foyers, dans les couples, dans les relations parents-enfants. C'est là au quotidien et c'est dommage. Et nos jeunes, dans les lycées, dans les collèges. De mon 7e étage de mon immeuble, il y a toujours les soirs des jeunes qui sont en bas. Mais la plupart de ce qu'ils sortent, c'est beaucoup de choses, sauf des choses qu'ils construisent. Ils seront traîtres, hein, sont prêts à toutes les trahisons pour réussir, emportés par leur passion, enflés d'orgueil, amis du plaisir, l'hédonisme. On aime le plaisir plus que Dieu, n'est-ce pas? Paul dira que en 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où ils ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, mais au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les mensonges. » Parce que c'est beau, c'est plaisant, c'est amusant, c'est... Il y a du monde, on y va, on écoute, on est content, ça nous touche les émotions. On est plus dans l'émotif que dans l'authentique. On cherche des choses qui nous font plaisir. Mais la parole de Dieu ne nous fait pas que plaisir. Elle est là aussi pour arracher des choses qui ne sont pas selon Dieu. Et ça, ça fait mal. Et on n'aime pas aller là où on nous dit des choses qui nous font mal. On aime aller là où on nous dit des choses qui nous font du bien. Mais c'est quoi le bien finalement? Parenthèse, c'est quoi le bien pour un enfant? C'est juste de lui dire toujours ce qu'il fait, tout est bon, tout est correct? Non, c'est pas ça le bien pour un enfant. Le bien pour un enfant, c'est de lui montrer ce qui est bien de faire et de lui montrer ce qui n'est pas bien de faire. C'est ça le bien. Parfois, nous, le bien, c'est tout ce qui me fait du bien. Lorsque je viens au culte et que je sors du culte, je dis ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout était positif pour moi? Non, ça veut dire que peut-être ce jour-là, il y a eu une parole qui m'a corrigé, mais ça m'a fait du bien aussi. Je n'ai pas été satisfait émotionnellement parce que, voilà, je n'ai pas été porté, mais ça m'a fait du bien. Parce que finalement, le bien, ce n'est pas tout ce que notre émotion vit en bien. C'est ce qui, au final, va être bon sur le long terme pour moi. Même si sur le commencement, ça ne m'a pas fait plaisir. Même si au commencement, ça ne m'a pas été agréable. Mais à la longue, ça me fait du bien. Il suffit juste de prendre l'exemple des médicaments. Ce n'est pas tous les médicaments qui sont agréables. Il y en a, oulala, tu te dis franchement, j'aurais pu me passer de ce médicament-là. Avoir l'expression de ton visage quand tu l'as bu, tu dis oh, j'aurais pu m'en passer. C'était pas agréable du tout. Mais vu que tu es convaincu et que le médecin t'a convaincu que ça va te faire du bien, tu le prends ce médicament. Ils garderont la forme de la piété, mais ils renieront la puissance. C'est-à-dire, malheureusement, ce qui se passe de plus en plus, c'est que globalement, voilà, les gens sont pas... Enfin, ça dépend des environs, ça dépend des pays, ça dépend des cultures. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, surtout dans le contexte dans lequel il écrivait à Timothée, il dit tout le monde aura l'apparence de gens qui aiment Dieu. Voilà, et ils ont une piété, ils sont religieux, ils sont attachés à Dieu. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre société, on parle de Dieu. Non, on ne parle pas de Dieu, on parle des religions, n'est-ce pas? Et les religions asiatiques, on la cote actuellement. Combien de jeunes Français ne vont pas dans ces pays-là pour faire une expérience dite spirituelle? Et pourtant, il y a des églises, ils n'y vont pas. Prennent des avions, ils vont très loin, ils disent, oh, je veux quelque chose de spirituel. C'est l'apparence de la piété. Parce que celui qui fait la vraie foi, c'est Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, Seigneur du monde. C'est Jésus-Christ. Mais celui-là, ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas le prendre dans leur vie. Ils ne veulent pas le laisser entrer. Et puis, dans cette forme de piété, il y a l'hypocrisie, il y a le formalisme. Hein? Et c'est nos frères de l'autre côté qui savent le dire clairement. Ah, je suis, mais je ne suis pas pratiquant. Et il semble que nous aussi, de plus en plus, dans les milieux évangéliques, on a des évangéliques non pratiquants. Il semble qu'en Île-de-France, le taux de chrétiens qui restent à la maison est énorme. Et ils sont des frères et des sœurs, parce qu'ils ont accepté Jésus, mais ils sont à la maison. Et on a toujours le bon argument pour rester à la maison. Et je ne juge personne. Mais je me convainc aussi qu'on est tous des humains. On est tous des humains, on est tous caution à l'erreur, à la faute, quelles que soient les responsabilités qu'on a. Après, il y a une question de se pardonner quelquefois. Et puis, le texte finit en disant, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne ressemble pas à ces gens-là. 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 Parfois, ce texte a été mal compris parce que ressembler, éloigne-toi de ces gens-là, c'est comme si le texte disait, sors, coupe toute relation, sois isolé. Non. Rappelez-vous que Jésus a dit régulièrement, je te prie de les garder dans le monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Notre témoignage, pour qu'il soit vivant, il faut qu'on soit dans la société. Faut qu'on soit là où on vit. Si on n'est pas là, comment le témoignage aura-t-il la force? Par contre, on ne doit pas ressembler parce que nous sommes nés de nouveau en Christ, que Christ, par son esprit, nous transforme. Et cette transformation doit parler à nos contemporains pour qu'eux aussi se tournent vers Dieu. N'est-ce pas que c'est comme ça que Dieu nous a attirés? Il a parlé à d'autres personnes qui, eux, par leur vie, nous ont impactés ou par leur témoignage. Et nous sommes là pour continuer la chaîne de ce témoignage en ne ressemblant pas à ce que Dieu n'aime pas. Et c'est pour cela que Romains 12, 10 à 21, et nous y revenons pour terminer, est important. Ce texte a commencé au chapitre 12 avec le verset 1 et 2. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à vous offrir comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, agréable et qui plaît à Dieu. Soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que vous sachiez discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et puis au verset 10, il commence en disant, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes, devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, mais si ton ennemi a faim, ouf, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je ne sais pas si on peut tous, sans l'aide de Dieu, vivre le verset 20. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif. Nous, on dit plutôt, je ne lui en veux pas. Et on s'arrête là. C'est déjà beaucoup. Ben oui. La parole de Dieu est profonde, frères et sœurs. Pour que l'Église soit une société alternative, nous avons à inviter l'Esprit de Dieu à nous transformer profondément dans nos relations humaines. Dans nos relations humaines. Il n'y a que lui qui peut nous aider à faire ça. Il n'y a que la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à faire ça. De nous-mêmes, c'est difficile. Parce que quand on se remémore de ce que la personne a fait, on a du mal. On peut encore effacer l'ardoise de la personne, mais retourner. Mais il n'y a pas que ça dans le texte. Regardons rapidement, pour terminer, ces quelques versets. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Moi, ce qui me plaît, c'est cette traduction en bas. Rivaliser d'estime réciproque, ça veut dire qu'entre nous, on doit être là en train de se féliciter, de regarder nos qualités, d'encourager nos qualités et pas toujours de regarder nos défauts, nos erreurs. Parce que honnêtement, si on fait la somme, nos qualités sont plus que nos erreurs. Mais comme on focalise trop sur nos erreurs, on a l'impression que c'est des montagnes. Par amour fraternel, rivalisez d'affection les uns pour les autres. Aimez-vous. Nous avons besoin que Dieu nous aide à le vivre, frères et sœurs. Nous ne sommes pas juste des membres d'un club. Nous sommes, du moins nous devrions comprendre que nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes de la famille de Dieu. Mais si on a une perception déformée parce qu'on n'a pas vécu ce que c'est qu'une famille, et malheureusement, beaucoup d'entre nous, à cause du péché, nos familles ne vivent pas toujours ce que Dieu voudrait que les familles vivent. Donc du coup, on est même déformé sur la notion de famille. Sinon une famille, les frères et les sœurs se tiennent les coudes. Ils sont là pour se porter, pour se soutenir, pour s'encourager. Aussi pour se dire la vérité, mais toujours dans l'amour. La diapo d'après. Faire des affaires de Dieu nos affaires. Ne pas être en retrait. Hein, c'est ce qu'il appelle le zèle. Nous avons nos affaires. Et Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Dieu ne veut pas que nous soyons... Nous ne sommes pas des chrétiens déjà au ciel. Oui, nous sommes déjà au ciel en esprit, mais nous sommes encore ici. Nous avons besoin de nous occuper de nos familles, de nos métiers, de nos professions. Oui, mais ça ne doit pas être une excuse pour ne pas nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes des enfants du Père. N'est-ce pas? Nous sommes la famille de Dieu. Et ce qui concerne notre Père doit nous concerner tous. Et il dit dans ce texte, ayez du zèle. Ayez du zèle. Dynamique, engagé, impliqué dans les affaires du Seigneur, dans l'Église. Après nos propres affaires, nous devons éviter d'être paresseux ou nous mettre en retrait ou dire, moi je ne sais pas quoi faire ou dire, moi je n'ai pas de don. Non, Dieu invite chacun et chacune à être dans l'Église. Il y a toujours quelque chose à faire ensemble. Ensuite, confiance dans l'espérance que Dieu nous offre, quelles que soient les situations. Il dit, soyez persévérants, n'est-ce pas? Soyez persévérants. Et nous avons besoin de l'aide, frères et sœurs. Quelles que soient les situations, Dieu est quelqu'un à qui on peut faire confiance, n'est-ce pas? Dieu est quelqu'un à qui... Réjouissez-vous en espérant, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous sommes invités à faire confiance à Dieu, à espérer parce qu'il est capable, frères et sœurs. Si Dieu n'est plus capable de transformer les situations, on arrête tout et chacun rentre chez lui. C'est même plus la peine qu'on vienne ici. On peut créer un autre club, hein. On peut créer une autre association pour faire ce qu'on fait. Non, c'est parce qu'il a montré en transformant nos vies depuis notre conversion qu'il est capable de nous changer. Il a déjà démontré qu'il est capable. Donc nous croyons parce qu'il est capable. Quelles que soient les situations, nous devons toujours mettre en perspective. L'apôtre Paul dit ici, c'est pour les choses de la terre seulement que vous avez confiance en Dieu, vous êtes bien malheureux. Car notre parcours ne s'arrête pas ici. Il continue dans l'éternité. Il continue dans l'éternité. Et si on met en perspective nos vies de 120 ans pour les plus vieux et l'éternité, ça vaut la peine de persévérer pour l'éternité. Ça vaut la peine. La diapo d'après. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Le mot bénissez ici veut dire souhaiter du bien à quelqu'un. Le contraire, c'est faire des imprécations contre lui, c'est-à-dire faire des malédictions, c'est-à-dire, quand je me lève, que celui-là qui ne réussisse pas, que ses affaires ne marchent pas, que sa famille soit détruite, que ses enfants ne deviennent rien, que tout ce qu'il engage échoue, que sa santé décuple, qu'il ait le cancer, c'est ça la malédiction. Que toute sa famille tombe malade, que s'il prend la voiture, qu'il ait un accident, et que ce soit un accident mortel. Non, si c'est mortel, c'est trop plus. Qu'il soit paralysé, comme ça, il va souffrir. Mais oui, c'est ça la malédiction. Je vous le dis comme ça en rigolant, mais c'est ça la malédiction. Souhaiter tout ce qu'il y a de pire pour quelqu'un. Souhaiter tout ce qu'il y a de pire pour quelqu'un. Et vous savez l'expression, on dit, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Que Dieu nous aide. Bénissez. Et Jacques dit, mais est-ce que d'une source d'où sort l'eau pure peut aussi sortir une eau empoisonnée? Ah, il dit, et pourtant c'est ce que vous faites. Pas à nous il dit ça, mais il disait ça aux chrétiens de l'époque. Ça nous fait réfléchir. Il dit, car de vos bouches sortent des bénédictions et de vos mêmes bouches sortent des malédictions. De la même source sortent. Que Dieu nous aide. Nous sommes des enfants de Dieu. Que vos paroles soient assaisonnées de sel et qu'elles soient à propos pour que vos interlocuteurs sachent que vous êtes des enfants de Dieu. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire simplement que le chrétien, il ne doit pas être dans une indifférence égoïste. C'est-à-dire que tout ce qui ne touche pas son intérêt, ça ne lui dit rien. Non. Même si tu n'es pas concerné, que quelqu'un est concerné, à plus forte raison dans la famille de Dieu, dans ta famille, tu dois te sentir concerné. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Même si toi, la chose, la situation n'est pas encore stable et que l'autre a une bénédiction, mais réjouis-toi avec lui. Ben, c'est bien pour lui. Merci Seigneur, il a ça, même si je ne l'ai pas moi. Je te bénis parce qu'au moins lui, il a. Et puis ceux qui souffrent, on a besoin d'être là avec eux aussi. C'est pas parce qu'on dit le malheur, tout, non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils souffrent et que j'ai besoin de le porter. Et si je peux, d'apporter une aide concrète aussi. Ok? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'est l'arrogance, c'est l'orgueil. C'est le sentiment que moi je sais tout, je peux tout et que j'ai pas besoin des autres. Non. Oui, tu as des compétences, oui, tu as des qualités, mais tes qualités sont toujours limitées. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Nous sommes toujours limités et les autres sont notre prolongement. Parce que eux, ce que nous n'arrivons pas à faire, ce que nous ne sommes pas, ils le sont. Du coup, on est complémentaires. Et c'est ça la famille de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on reste humble. On reste humble. Je ne sais pas tout faire, je ne peux pas tout faire, je ne connais pas tout. L'autre peu importe son degré social, mais il est un enfant de Dieu. Il a une dignité, il a des capacités, il a des qualités. Et parfois, si on ne côtoie pas les gens, on n'imagine pas le potentiel qu'ils ont. On n'imagine pas le potentiel qu'ils ont. Et c'est à notre détriment, en plus. Et puis, enfin, vas-y, s'il te plaît. Le gros du gros, ne rendez à personne le mal pour le mal. Que Dieu nous aide. Dans la béatitude de l'évangile de Matthieu, il dit, soyez des artisans de paix, car vous serez appelés fils du Très-Haut. Soyez des fabricants de paix. Soyez des ouvriers de paix. Travaillez à apaiser toutes les sphères là où vous vivez. Vous, c'est vous qui devez apaiser là où vous vivez. C'est notre mandat, c'est notre mission. Parce que Dieu, par son esprit, nous a donné la force de le faire. Nous devrions, par l'aide de l'Esprit de Dieu, être des hommes et des femmes de paix. Il dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ce qui ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de toi, tu ne peux rien y faire. Mais tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Soyez des artisans de paix. Commençons à être des artisans de paix dans nos couples. Alléluia. C'est important. Soyons des artisans de paix déjà dans nos couples, déjà dans nos familles, relations parents-enfants. Essayons par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu, d'avoir des familles chrétiennes apaisées. Des familles chrétiennes apaisées. Ça nous fait du bien. Ça fait du bien à nos épouses, à nos époux. Ça fait du bien à nos enfants. Et la société en a besoin. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et finalement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Et parfait. Prions. Te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à être des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, transformés par toi. Ce qui du reste nous fera du bien à ceux que nous aimons, fera du bien à nos prochains, et sera dans le sens de ta volonté. De ce qui te fait plaisir, de ce qui t'est agréable et de ce qui est parfait. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous voici. Agis en nous, s'il te plaît. En Jésus-Christ. Amen.